en séance. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
L'Europe est cette année l'un des principaux thèmes de travail de l'Académie des sciences morales et politiques, placée sous la présidence de M. Michel Albert. Tous les lundis à 15h, en salle des séances, un académicien ou une personnalité extérieure à l'Académie vient présenter une communication consacrée à ce thème. Et le lundi 8 mars 2004, l'Académie avait invité le professeur Théodore Berchem, professeur au Collège de France, communication intitulée « L'Europe des universités et de la recherche », intervention pour le moins d'actualité à l'heure de la mobilisation des chercheurs français en ce mois de mars 2004. Nous rejoignons tout de suite la salle des séances pour écouter le professeur Berchem.
Notre continent a environ 700 millions d'habitants. Quelques 70 langues, dont plus de 30, sont utilisées par plus d'un million de personnes. L'Union européenne seule compte à partir du 1er mai 2004 plus de 450 millions d'habitants en 25 États. Vous vous souvenez, tout cela, évidemment, avec le fond de l'Amérique du Nord, il y en a à peu près 260 millions. Donc, nous sommes plus nombreux, première constatation. C'est dans cet ensemble géographique que s'est développée une extraordinaire dynamique politique et intellectuelle. De tout temps, l'Europe a été animée d'une soif de curiosité, d'un besoin d'action et d'un goût de l'aventure. Elle a conquis et exporté ses conceptions de l'homme, sa vision de l'État, ses convictions religieuses, ses institutions ainsi que sa science et sa technique. Elle a assimilé, adapté et transformé ce qui avait à apprendre des autres. De grands bouleversements ne l'ont pas épargné tout au long de son histoire, entre autres deux grandes guerres au XXe siècle. Le jour où les armées des deux grandes puissances, l'Amérique et l'URSS, ont fait leur jonction sur l'Elbe, l'Europe semblait définitivement condamnée à l'insignifiance. Mais elle s'est vite relevée du désastre grâce aussi à l'aide américaine à l'Ouest. Marshall Plan. Il me semble important de retenir que pour la reconstruction de l'Europe occidentale, après la Deuxième Guerre mondiale, la réconciliation et finalement l'amitié entre la France et l'Allemagne ont joué un rôle capital et ont servi de catalyseur déjà à partir de 1951 avec la CECA, qui était bilatérale, je le souligne, bilatérale entre nos deux États. C'est donc le noyau de ce qui a suivi. Ce qui a suivi est une conséquence logique déjà incluse dans ses premiers pas, même si l'on doit reconnaître que la tâche était gigantesque et uniquement faisable parce qu'il y avait de tout temps et en tout lieu de grandes personnalités avec suffisamment de vision et de ténacité. Vu les obstacles, le résultat est grandiose. Il est vrai que l'Union européenne a été, dès sa création par le traité de Rome en 57, la CEE, surtout orientée vers les questions économiques avec bon nombre de problèmes. Jean Monnet, premier président de la CECA, écrivit en guise de résumé dans ses mémoires une phrase souvent citée depuis, « Si c'était à refaire, il faudrait commencer par la culture ». C'est ce que l'on tente de rattraper aujourd'hui, comme l'indique la décision du Conseil européen lors du sommet de Lisbonne en 2000. L'Europe doit devenir, d'ici l'an 2010, c'est de fortes paroles, l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. L'objectif concret et mesurable est d'augmenter les investissements européens dans la recherche actuellement de 1,9% du PIB à 3%. On espère notamment rattraper ainsi l'avance des États-Unis. La mise en œuvre des objectifs de Lisbonne est liée à deux stratégies, créer un espace européen de l'enseignement et un espace européen de la recherche. Il y en a encore un troisième, de la culture. Concrétiser ces stratégies entraînera des conséquences visibles dans les 4000 établissements d'enseignement supérieur que compte l'Europe élargie à 25 membres, 4000, ainsi que dans les centres de recherche, surtout en termes de concurrence. La création du marché intérieur a soumis les entreprises dans les États membres à une concurrence plus forte. Une nette différenciation entre institutions est tout aussi prévisible, et ce, à moyen terme, dans la science et la recherche. Nos pays sont-ils prêts à relever le défi? Où nous situons-nous par rapport aux autres? Pour répondre à ces questions, il nous faut d'abord accepter deux évidences. Les évidences, il faut toujours les accepter, mais on ne le fait pas toujours. J'essaye de vous convaincre. Premièrement, les performances de la recherche européenne sont globalement loin de pouvoir se mesurer à celles des États-Unis. Les faits en matière de production de résultats scientifiques de pointe le prouvent. Par exemple, les indices de citation dans les diverses disciplines ou encore le nombre de récents lauréats du prix Nobel qui travaillent aux États-Unis, sans oublier les excellents produits provenant aussi d'aussi excellentes recherches. Un exemple d'actualité, le superordinateur le plus rapide d'Europe, au sixième rang mondial dans la catégorie civile, fonctionne depuis la mi-février dans le laboratoire de Jülich en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Son constructeur, néanmoins, est américain, c'est IBM. En déplorant ce bilan globalement peu satisfaisant, je n'oublie pas, et j'aimerais souligner cela, les résultats individuels souvent brillants de nos chercheurs européens, mais faute de moyens et de crédits suffisants, nous n'arrivons en général pas à atteindre la masse critique nécessaire pour récolter tous les fruits de ces découvertes et innovations. Deuxième fait indéniable. Pour les meilleurs étudiants et chercheurs du monde, l'Europe n'est pas toujours le premier choix, même pour ceux qui sont nés en Europe. Il est clair que pour les étudiants mobiles du monde entier, l'adresse de loin la plus séduisante sont les États-Unis. Ça n'est pas uniquement la qualité de la recherche ou de l'enseignement, il y a d'autres facteurs, mais il faut tout de même prendre en considération cela aussi. Des comparaisons mondiales entre universités démontrent également les différences de qualité tangible. Un récent classement de l'université de Shanghai des 500 meilleures universités de la planète, avec une priorité pour les résultats de recherche en sciences exactes, ne cite parmi les 100 premiers que deux établissements français et 5 allemands, dont l'Université de Munich et Paris 6, les mieux placés. Ce n'est qu'une petite consolation de constater que 55% des résultats de la recherche pratiquée aux États-Unis est à mettre au compte de chercheurs étrangers. Bon, ça peut nous consoler, c'est les nôtres là-bas, donc en fin de compte, ça devrait tout de même être un bijou dans notre couronne, mais il vaut mieux prendre ça comme ça. Il y a d'autres statistiques, d'autres enquêtes qui montrent la même chose. Je peux moi-même relativer tout cela. Je peux par exemple dire, s'il y a un tel classement et que l'Université technique d'Aix-la-Chapelle, qui est une des meilleures dans mon pays, et je pense aussi au monde, si elle se trouve à la place 250, il y a quelque chose qui a été mal. Parce que dans le classement de la recherche par notre Conseil national de la recherche scientifique, cette université se trouve ou au premier rang, le dernier classement, ou au deuxième. Donc là, je relative. Mais quand on prend l'ensemble, il vaut mieux admettre, bon, nous sommes bons, mais nous ne sommes pas excellents. Je peux encore relativer une autre chose. On a pris ici 500 universités. C'était déjà un tri auparavant, parce qu'il y a des milliers et des milliers d'universités. On a pris les 500 meilleures. Bon, si je me trouve là parmi la centaine la meilleure, je suis dans les 20% des meilleurs. Si je prends par exemple les universités de la communauté européenne à partir du 1er mai, il y en a 4000, ben je me trouve tout d'un coup déjà dans les 2,5% des meilleurs. Et si je prends toutes les universités du monde entier, eh bien, je me trouve pas mal placé. Mais tout cela, c'est des subterfuges. Il vaut mieux admettre qu'il y a quelque chose à faire là. Et c'est surtout dirigé à l'adresse de nos politiciens qui doivent décider. Je sais très bien qu'ils parlent très bien, tous les jours, de la relevance, de la pertinence, de l'importance de la recherche pour nos pays, pour nos économies aussi. Mais les faits sont tout de même un tout petit peu derrière. Voici, mesdames et messieurs, une partie de la réalité, la partie la plus fâcheuse. J'ai choisi de placer au début de mon intervention parce que l'avenir de la recherche et de l'enseignement dépend aussi de notre capacité à porter un regard critique sur notre positionnement au-delà de nos frontières nationales et européennes. L'autre aspect de notre mission, il est au moins aussi important, est d'apprendre à développer nos points forts et à améliorer la communication mutuelle. Je souhaite me concentrer sur cet aspect, car l'essentiel est de regarder vers l'avenir en se posant la question suivante: comment la France et l'Allemagne, en tant que puissance européenne de premier rang que nous sommes, il faut ça aussi le souligner, peuvent-elles encourager une évolution bénéfique pour la formation et la recherche, et par conséquent, pour le développement culturel de notre continent? Je vais tenter de répondre à cette question par trois propositions. Le premier pas vers un changement positif se résume en une seule phrase. Nous devons investir davantage dans nos universités et notre recherche. Beaucoup plus investir, beaucoup plus. Je l'ai déjà cité ailleurs, je le cite volontiers ici aussi. J'ai été à la tête d'une université qui a fait de grands pas en avant. Elle se trouve maintenant sur la place 100 dans le classement là, international. C'est une université de moyenne taille. Elle se trouve sur la place 30 pour le classement européen. Et on me dit donc, mais vous pourriez être comme Harvard, comme Stanford, comme Princeton, comme Yale. Non, on ne peut pas, parce que ces universités ont 5 fois le budget que j'avais. 5 fois. En dehors du fait que Harvard, par exemple, a 25 milliards de dollars comme propriété. Donc, constatons, il faut investir. Les innovations coûtent de l'argent. Améliorer la situation de nos établissements d'enseignement et de notre recherche n'est pas réaliste sans augmenter les moyens. L'Union européenne s'impose ces mêmes investissements. Le programme de coopération et de mobilité Erasmus Mundus prévoit pour la période de 2004 à 2008 un budget de 230 millions d'euros. Le 6e programme cadre de l'Union européenne est doté d'un budget total de près de 20 milliards d'euros de 2003 à 2006, la communauté, ce qui en fait le plus important programme de financement et de recherche au monde. Malheureusement, on observe la tendance inverse au niveau national dans de nombreux pays de notre continent en ces temps de faible conjoncture. C'est l'heure des économies à grande échelle. En France, les gels et coupures dans ce domaine ont beaucoup fait parler et les débats actuels, notamment autour du collectif Sauvons la recherche, continue à attirer l'attention sur ces questions essentielles. Si je parle de la France ici, c'est de l'actualité. Je me trouve en France, mais je ne veux pas du tout dire que c'est mieux dans mon pays. C'est plutôt pire encore. Ça, pour la discussion plus tard. Pour permettre à la France d'atteindre les 3% du PIB dans la recherche d'ici l'an 2010, ce qui a été décidé à Lisbonne, il faudrait que le budget augmente de 10% par an. Même situation en Allemagne. Depuis des décennies, les universités y sont soumises à des impératifs de rigueur qui dépassent de loin le seuil de tolérance. L'État, qui en 1980 dépensait encore près de 13 000 euros de financement de base par étudiant, dépensait en 2002 moins de 10 000 euros, soit une réduction de près d'un quart. Parallèlement, je parle de mon pays à moi, parallèlement, le nombre d'étudiants ne cessa d'augmenter. En 1990, l'Allemagne fraîchement réunifiée ne comptait encore que 1,7 million d'inscrits contre un peu plus de 2 millions au semestre d'hiver 2003. La situation en France est tout à fait similaire. Cette progression est souhaitée au niveau politique. Néanmoins, les établissements d'enseignement supérieur ne peuvent faire face à une demande aussi énorme qu'en sacrifiant la qualité de l'enseignement et surtout de la recherche. En Allemagne, les places d'étudiants sont strictement calculées. C'est le système le plus perfectionné que je connaisse au monde. Je ne veux pas vous le montrer. C'est strictement calculé. Et vraiment pour faire des économies. Mais avec ces chiffres, donc, on peut calculer un certain nombre d'étudiants. Et normalement, les universités allemandes et les Fachhochschulen aussi n'ont pas 100%, mais 200% d'étudiants de ce qu'ils devraient faire. Et ceci depuis 20, depuis 30 ans, depuis que je suis dans ce métier-là. Il est normal que ça ait évidemment un impact sur la qualité de ceux que nous formons. Et à mon égard, dans ce que je vois, moi, il faut s'étonner, non pas qu'ils soient un peu peut-être plus mauvais que nous l'étions, mais qu'ils soient aussi bons qu'ils le sont avec ces conditions que nous avons. Bien sûr, l'argent seul ne suffit pas à engendrer une hausse de la qualité. Il est impératif d'y ajouter une situation de concurrence nationale et européenne pour les fonds disponibles dans tous les domaines qui ne relèvent pas d'un financement de base. Cela m'amène à ma deuxième proposition, la concurrence est riche d'enseignement. La valeur de notre recherche et de nos universités se définit dans un environnement international par la qualité qu'offrent ces universités, les institutions de la recherche par rapport à d'autres. En conséquence, plus d'autres sites investissent dans la recherche et la formation, plus la formation universitaire et les performances de la recherche de nos pays sont désavantagées. Même si dans de nombreux secteurs, le champ d'action dans nos pays est aujourd'hui influencé par le cadre européen, les défis auxquels nous sommes confrontés restent majoritairement déterminés par les traditions nationales. Nous possédons bon nombre de traditions dont nous pouvons être fiers. L'idée humboldtienne de l'unité de la recherche et de l'enseignement en Allemagne, la promotion ciblée de jeunes élites nationales dans des pays tels que la France et la Grande-Bretagne, je sais que ça aussi, que c'est discuté. Nous vivons de la substance de ces traditions. Or, cela ne suffit pas à long terme pour affronter la concurrence internationale. Nous devons plutôt nous demander comment la concurrence parvient à un tel succès. Quels facteurs rendent leurs universités si attirantes et leurs recherches si excellentes? Et quand on parle de concurrence, on pense d'abord aux États-Unis, deuxième point, c'est déjà le Japon, etc. Il faut aussi savoir que quand on parle des États-Unis, et tous les politiciens le font tous les jours, il ne s'agit pas de l'ensemble de leurs universités, mais d'une centaine, 120, 130 universités de pointe, research universities, et c'est les seules auxquelles on peut nous comparer, et là, je veux admettre que parfois, elles sont meilleures. Mais on ne parle pas dans toutes ces rankings et ratings, on ne parle jamais des sciences sociales, des sciences humaines, de la philosophie, de la musicologie, etc. Il s'agit pratiquement uniquement des sciences exactes et des sciences de l'ingénieur. Ça aussi, ce serait une affaire pour une académie. Dans l'annexe que j'ai donnée, j'ai dit, et quand on est bon, il faut aussi faire de la publicité de soi-même. Ce n'est pas une vertu européenne. Je pense qu'être modeste, la modestie, c'est quelque chose qu'il faut vraiment tenir à cœur. Mais ça n'est pas le monde actuel comme ça. Les Américains sont partout, les meilleurs, les plus beaux, les plus intelligents, etc. Donc, il faudrait aussi un tout petit peu faire de la publicité de ce que nous possédons, de ce que nous pouvons. D'autres pays se posent la même question. Avec succès, le Japon et le Canada présentent par exemple des performances impressionnantes et essayent d'attirer les meilleurs étudiants internationaux. Et si le savoir acquis par les excellents candidats au doctorat et chercheurs chinois aux États-Unis, si ça profite un tout petit peu, ne serait-ce qu'en partie, à leur pays d'origine, nous devrons bientôt compter aussi avec la Chine comme site scientifique de premier rang, avec plus d'un milliard d'habitants. Que peut donc nous enseigner la concurrence, notamment avec l'Amérique? Quatre mots-clés résument les aspects que je considère primordiaux: l'autonomie, la capacité de direction, la diversification et la qualité de vie dans les universités. Commençons par l'autonomie, mot qui a fait tant de bruit en France l'année dernière au moment des débats sur la réforme universitaire. Aux États-Unis, les établissements d'enseignement supérieur et centres de recherche sont soumis à un nombre relativement restreint de contraintes extérieures, qu'il s'agisse de l'utilisation des moyens budgétaires ou de la sélection des étudiants. Aussi un mot à la mode, sélection, dans nos pays, le vôtre, le mien. Ils assument de hauts risques, mais sont également plus libres dans leur prise de décision. Leurs ressources proviennent, qu'il s'agisse d'universités publiques ou privées, en moyenne, pour moitié de sources privées, dont les frais de scolarité et les donations d'anciens étudiants. Ceci, donc, ça ne fait pas une différence entre l'université de Chicago, qui est de l'État, et celle de Stanford ou de Harvard, qui est privée. Ceci leur permet d'avoir une marge de manœuvre bien supérieure à celle des universités européennes. Stanford bénéficie d'un volume de donations moins que Harvard, mais tout de même encore 8 milliards modestes de dollars, d'un budget annuel de 2 milliards et demi. Non seulement les établissements européens disposent de moins de fonds, mais ils subissent aussi une bureaucratie bien plus lourde et des interventions de l'État nettement plus importantes. Le professeur Gerhard Kasper de Hambourg, longtemps comme allemand, longtemps président de l'université de Stanford, a récemment requis, dans le cadre du débat allemand sur la promotion des élites, une plus grande autonomie en exigeant qu'on retire au gouvernement des États fédéraux la gérance de l'enseignement supérieur. Je n'irai pas aussi loin. Si on me demandait ce qu'il faut abolir, je dirais plutôt l'instance fédérale, mais enfin, c'est mon avis personnel. En Grande-Bretagne, les universités se plaignent actuellement de la restriction imposée par le gouvernement sur les frais de scolarité, limitée à un maximum de 3 000 livres, donc 4 500 euros. En France, le projet d'augmenter les frais de scolarité à l'Institut d'études politiques de Paris jusqu'à 4 000 euros a provoqué beaucoup de protestations, mais aussi de la sympathie auprès de nombreux présidents d'université. D'un autre côté, les établissements européens sont forcés d'admettre qu'ils ne profitent pas suffisamment d'une autonomie dont ils disposent de facto. Ainsi, seule une minorité d'universités allemandes mettent entièrement à profit les quotas dont elles disposent pour sélectionner elles-mêmes leurs nouveaux étudiants. Et rares sont les établissements qui font preuve d'assez de hardiesse pour soumettre leur propre concept au ministère de tutelle. On en viendrait parfois à penser qu'il est plus agréable de se plaindre d'un État fort que de supporter soi-même le poids de la responsabilité. Mon deuxième point concernant ce que l'on peut apprendre du concurrent est la capacité de direction. Dans le cadre d'une compétition toujours plus prononcée, voire agressive, les universités et les centres de recherche qui sont dirigés par des personnalités de poids semblent avoir un réel avantage. Aux États-Unis, l'attribution des postes de direction des universités d'élite fait l'objet d'un large débat public. En Europe, au contraire, l'élection d'un président d'université découle uniquement d'une décision normalement prise au sein d'un petit cercle interuniversitaire et parfois aussi à la suite d'un compromis. L'autorité du président doit devenir un critère essentiel dans l'intérêt de tout établissement, car une direction compétente, pleine de volonté, énergique, est toujours bénéfique. Et je me permets ici d'ajouter, d'un point de vue personnel, que je suis tout à fait favorable à la possibilité de réélection des présidents d'université en France. Le souverain est souverain, et s'il pense que le président a fait un bon travail, pourquoi pas le réélire? Pourquoi pas? Et peut-être en élire un autre qui est moins bon. Donc, je sais que c'est aussi controversé. Mon prochain point, la diversification. Aux États-Unis, personne n'attend d'une même université qu'elle excelle autant dans l'enseignement que dans la recherche, et ce, a fortiori, dans toutes les disciplines. Les étudiants reçoivent en général le meilleur enseignement au niveau des premiers cycles, où la recherche joue plutôt un rôle mineur. La question n'est donc pas de choisir entre l'enseignement et la recherche, mais de trouver un moyen viable d'exceller dans les deux domaines, et cela en accentuant différemment, selon les cycles d'études, ces deux faces de la même médaille. Dans le souci de renforcer l'interdisciplinarité, il est important de garder des disciplines différentes sous le toit d'une même université. Là, je fais allusion à ce qu'on a fait à la suite de 68 en France, et la séparation de la Sorbonne en 13 sous-unités, etc. Je comprends tout à fait quelques arguments pourquoi on l'a fait, mais il y a aussi des handicaps, par exemple les handicaps qu'on est complètement isolé des autres branches de la science. Donc, dans le souci de renforcer l'interdisciplinarité, il est important de garder des disciplines différentes sous le toit d'une même université. Et je plaide notamment pour le dialogue entre les sciences dites exactes et les sciences humaines et sociales, car les critères qui décident de l'application d'une découverte française, mais quand il y a toutes les sciences, il y a aussi une autre exigence, il faut transgresser les frontières, parce que uniquement se trouver dans la même université, ça ne sert à rien. Le dernier mot-clé qui démontre les avantages de la concurrence est un facteur secondaire à ne pas sous-estimer. Il s'agit de la qualité de vie durant les études et durant les recherches. Les étudiants et chercheurs européens qui vivent et travaillent aux États-Unis sont particulièrement enthousiasmés par le dialogue d'égal à égal qui remplace là-bas les obligations aux dépendances hiérarchiques. C'est la performance qui compte et non pas le statut, voire la nationalité. Les meilleurs éléments sont courtisés et pris en charge individuellement. Sur notre continent, C'est l'ETH de Zurich qui a obtenu le plus grand succès selon ce modèle. Elle a réussi à attirer une large proportion des meilleurs scientifiques internationaux. Ailleurs, en Europe, il reste encore nettement matière à amélioration, autant dans les structures parfois sclérosées que dans les rapports humains au quotidien. Quelle est donc notre mission ? Ma réponse à cette question est également la troisième proposition pour une amélioration du site européen. Nous devons développer et mettre en valeur notre identité européenne. Le grand penseur Ortega y Gasset, espagnol, l'a formulé ainsi. Si nous faisions aujourd'hui le bilan de notre patrimoine intellectuel, il s'avérerait que la plus grande partie ne provient pas de notre patrie, mais d'un fonds commun européen. En nous tous, l'Européen l'emporte de loin sur l'Allemand, l'Espagnol, le Français. 4/5 de notre patrimoine sont identiques. Il ne s'agit maintenant pas de discuter si c'est 4/5 ou 3/5. Les systèmes d'éducation de nos pays sont le fruit d'une évolution de plusieurs siècles et reflètent sous forme condensée en quelque sorte l'état de nos sociétés et l'héritage culturel spécifique de nos nations. Au-delà des facteurs économiques, tels que la Banque centrale européenne et la monnaie commune, ou encore la politique agricole, il y a peu d'unité visible en Europe. Pas de politique extérieure européenne cohérente, pas de politique de sécurité commune, pas de politique européenne en matière d'aide au développement. Jusqu'à nouvel ordre, il n'y a pas non plus de constitution européenne. Cette hétérogénéité devient évidente lors de divergences d'opinion entre les États membres. La guerre en Irak en est un exemple. En conséquence, vu de l'extérieur, l'Europe n'est pas perçue comme une unité, ou j'aimerais dire pas encore. La politique européenne de l'éducation est une excellente opportunité d'arriver à cette orientation commune qui semble actuellement irréalisable dans d'autres domaines. Le processus dit de Bologne poursuit sans cesse la création d'un espace européen d'ici l'an 2010, tout comme les décisions de Lisbonne œuvrent à la mise en place d'un espace européen de la recherche qui coopérera selon des critères communs. L'une des principales chances des programmes cadres réside dans le rassemblement de la structuration de l'effort et des capacités de la recherche en Europe. Nos établissements ne peuvent guère espérer se mesurer aux meilleures institutions américaines. Notre avantage européen spécifique réside plutôt dans la création d'un réseau décentralisé reliant nos ressources et nos capacités. Un seul ne peut pas, mais ensemble nous pouvons. Des institutions d'avant-garde reconnues dans le monde entier, telles que l'Agence nationale européenne ESA ou l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire CERN, il y en a d'autres encore, symbolisent l'efficacité et les effets synergiques positifs de cette stratégie de valeur ajoutée européenne. Une étape importante vers une meilleure organisation de la recherche serait la création d'un Conseil européen de la recherche. Une institution supranationale qui saurait mieux coordonner la recherche fondamentale et augmenter les interactions avec la recherche appliquée. C'est actuellement en cours de discussion. Il ne faudrait pas que ce soit la même chose que le Conseil national ou notre Forschungsgemeinschaft. Il faut que ce soit vraiment quelque chose de tout à fait différent, sans concurrence pour les institutions nationales. Dans le domaine des cursus, la future structure standard 3-5-8 aura des conséquences positives sur l'attractivité de nos sites universitaires, malgré les difficultés que je ne veux pas méconnaître. D'autres domaines concernés par les objectifs du processus sont à organiser ensemble avec du bon sens et avec un jugement équilibré. Du bon sens, j'exige du bon sens. Je pense à l'assurance de standards de qualité, au curriculum commun, aux conditions de l'apprentissage tout au long de la vie. Autant de domaines auxquels nous pouvons contribuer, soit en apportant les avantages de nos systèmes nationaux, soit en apprenant de nos voisins. Le système allemand pourrait ainsi apporter l'orientation des universités vers la recherche, ou bien les phases pratiques qui caractérisent les universités de sciences appliquées, mais en accordant plus d'importance à une sélection qualitative et à un meilleur accompagnement des étudiants. Et le système français pourrait notamment apporter son expérience de la promotion ciblée des élites dans les grandes écoles, mais en trouvant un moyen de faire participer davantage les meilleurs cerveaux de la nation à la recherche. Et ça, il faut évidemment le voir. Et on ne peut pas dire que c'est les plus mauvais qui passent les concours. Mais s'ils passent les concours, très souvent, ils sont perdus pour une carrière de chercheur. Si je fais l'exception de l'école normale supérieure, là où on fait souvent les deux. Mais pour le reste, on va tout de suite dans la vie pratique. Mais ce serait peut-être aussi de très bons chercheurs. Donc, il faudrait voir si on ne peut pas trouver un moyen de combiner les deux. La France et l'Allemagne pourraient devenir l'avant-garde d'un espace européen de l'éducation où la mobilité transnationale serait naturelle et servir d'exemple pour l'intégration en matière de politique éducative des nouveaux États membres d'Europe centrale et orientale, notamment avec le modèle de la co-tutelle de thèse et les programmes de double diplôme qui sont déjà plus d'une centaine uniquement entre nos deux pays. Si nous voulons davantage élargir cette coopération, il est important d'envisager une approche pragmatique de la question linguistique et de proposer des cursus qui conviennent. L'anglais est devenu, comme jadis le français au siècle des Lumières, la nouvelle lingua franca. Mais il faut évidemment chercher d'autres moyens pour défendre sa propre culture et sa propre langue. Je vous donne l'exemple. Personne au monde apprend, à l'exception de quelques Français, en classe, l'allemand. Personne. Si je veux donc pas laisser tout le marché asiatique aux Américains, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux prier le bon Dieu qui m'aide et que les gens courent en masse au Goethe-Institut pour apprendre pendant 2 ou 3 années ce qui est nécessaire pour faire des études en Allemagne. Entre-temps, ils ont déjà fait un bachelor aux États-Unis. Alors, je suis bien obligé pour la concurrence internationale, de commencer quelques cours, pas tous les cours, avec de l'anglais. Parce que comme ça, je les attire et je rends obligatoire qu'ils apprennent l'allemand pendant ce temps-là. Et s'ils nous quittent au bout de 3 ou 4 ou 5 années, eh bien, ils sont tout à fait familiarisés avec notre mode de vie et aussi avec notre langue. Donc, c'est ça que j'appelle une certaine pragmatique. Si vous prenez notre cas privilégié, les Français et les Allemands, et le nombre de ceux qui apprennent la langue de l'autre, mais c'est décevant au plus haut degré, et ceci malgré 40 années de travail intensif de la part des universitaires et de la part des politiciens aussi, je veux bien admettre. Il faut enfin présenter avec succès, à l'intérieur comme à l'extérieur, les offres d'enseignement et de recherche dont nous disposons. Après les États-Unis et la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France atteignent tout de même le 3e et le 4e rang national mondial en termes de destination favorite des étudiants. C'est vraiment pas mal, hein, tout de suite après 2 pays anglophones. Lors des salons de l'éducation du monde entier, les Français et les Allemands se présentent désormais ensemble. Un autre exemple réussi de création d'un réseau. Nous pourrions aller plus loin encore sur ce chemin et commercialiser nos cursus ensemble. Le nouveau programme Erasmus Mundus, qui finance l'échange avec les pays tiers, comporte en effet une tranche marketing qu'il convient de mettre à profit. Mesdames et messieurs, monsieur le Président, en guise de conclusion, laissez-moi citer un aphorisme de Georg Christoph Lichtenberg. Je ne sais pas s'il y a une traduction française, mais ça vaudrait la peine. Un grand esprit allemand du siècle des Lumières, plein de sarcasme et d'humour, qui nota dans ses Udelbücher, dans ces brouillons. Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird. Aber so viel kann ich sagen, es muss anders werden, wenn es gut werden soll. Il est vrai que je ne saurais dire si cela ira mieux quand cela aura changé. Mais je puis dire avec certitude qu'il faut que cela change pour devenir bon. Je serai optimiste, l'Europe présente beaucoup d'avantages qui rendent des établissements d'enseignement supérieur et ses centres de recherche attrayants pour les meilleurs et les élites internationales. Je nous souhaite la détermination d'œuvrer pour cette attractivité, de l'améliorer et de la croître, avec l'objectif ultime de voir les meilleurs chercheurs du monde entier nous donner la préférence pour venir travailler chez nous à leur prix Nobel futur. Voilà le cadre de référence. Il y a, à mon avis, suffisamment de substance intellectuelle pour entrer en lice. Et, Monsieur le Président, j'ai ajouté une liste de quelques points. Comment on pourrait procéder tout de suite à l'action. Merci beaucoup.
C'était Théodore Berchem, professeur au Collège de France devant l'Académie des sciences morales et politiques le lundi 8 mars 2004. La communication que nous venons d'entendre était intitulée « L'Europe des universités et de la recherche ». Vous pouvez retrouver l'intégralité du texte de cette intervention sur le site internet de l'Académie des sciences morales et politiques. Voici l'adresse. www.asmp.fr www.asmp.fr. Le site vous propose également de découvrir l'ensemble des travaux de l'Académie et des académiciens.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.